Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Christian Page nous arrive avec son nouveau livre « Les grandes fraudes du paranormal ». C'est une approche un peu différente de ce qu'on a vu habituellement. Christian, bonjour.
Bonjour, Paul.
Les grandes fraudes, là, je regardais, là, ça inclut là, le monstre du Loch Ness et tout ça. Les gens sont motivés par quoi? C'est-à-dire que ça m'a toujours intéressé de voir qu'est-ce qui amène quelqu'un à créer une histoire, à inventer une histoire, à répéter une histoire. C'est l'argent, c'est... Se désennuyer, c'est d'amener une espèce d'auréole autour de soi?
Mais il y a plusieurs choses, Paul, que tu mentionnes qui sont tout à fait intéressantes. D'abord, il faut se rappeler que les fraudes du paranormal sont un peu comme des parasites qui viennent s'accrocher à un sujet. Ça veut pas dire que toutes les histoires d'OVNI sont des fraudes, toutes les histoires d'apparition de monstres laqueux sont des fraudes. Mais, évidemment, des gens disent, voilà, je pourrais tirer profit de ça. Et là, donc, on monte une arnaque. Et tu l'as bien mentionné, dans l'univers du paranormal, il y a une espèce de oubli collectif. On dit de manière populaire, on a une mémoire collective, quoique au gouvernement on oubliait ça, mais c'est sûr que dans l'univers du paranormal, c'est l'oubli collectif. Donc, il suffit de dénoncer une histoire, la déboulonner, et après quelques temps, quelques mois, quelques années, sur les médias sociaux, on est certain que l'histoire va renaître de ses cendres, et puis elle va être partie.
Bon, on s'est parlé il n'y a pas si longtemps, voilà. Puis c'est dans le livre aussi, là, cette espèce de phénomène de ces momies.
Voilà.
Et là, c'était une arnaque là, très claire, qui était connue, puis qu'on a comme ramené une deuxième fois.
Tout à fait raison. Et ça, c'est le bel exemple du recyclage. Donc, 2015-2016, ces histoires de momies péruviennes sortent dans les font la manchette un peu partout à travers le monde. Ce sont des momies, certaines ont des tailles humaines, d'autres ont à peu près 50 cm. Elles ont toutes un crâne déformé, et elles ont toutes trois doigts à chaque main, trois orteils à chaque pied. Et là, évidemment, on essaie de nous présenter ça comme étant des momies d'extraterrestres. Rapidement, on parle ici de 2015-2016, des archéologues, des paléontologues vont regarder ces fameuses momies et conclure en fait qu'il s'agit pour les plus grandes de momies humaines que l'on a malheureusement charcutées pour nous faire croire qu'il s'agit d'extraterrestres. Quant aux plus petites, c'est malheureusement un remodelage fait avec des os d'oiseaux et d'autres objets. Et éventuellement, l'histoire semble mourir de sa belle mort. Là, on est en 2015-2016 et voilà que 2023, ces momies réapparaissent à nouveau, même si elles ont été dénoncées par les milieux archéologiques ou scientifiques. Elles sont de nouveau présentées lors du congrès mexicain qui faisait une espèce d'audit public pour savoir si oui ou non il devait, lui aussi, un peu à l'image des Américains, de mettre en place un organisme étatique pour enquêter sur les ovnis. Alors quelqu'un s'est dit, ben voilà, une belle occasion de ressortir mes fameuses momies. Et dans ce cas-là, bien sûr, c'est l'argent qui est la motivation. Mais c'est l'argent.
Mais tu sais, je me souviens du cas de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
Oui.
Apparition de la Vierge qui suinte, le soleil danse dans le ciel, disait le chef de police. Puis là, les gens étaient vraiment mobilisés, puis ils croyaient que c'était vrai jusqu'à temps qu'on découvre que c'était du sang de bœuf, puis que voilà. Ça était évidemment une arnaque.
Exactement.
C'est sûr qu'avec le religieux, ça peut évidemment donner de belles fenêtres d'opportunité à des fraudeurs. Mais tu sais, le monstre du Loch Ness, on est ailleurs. Là. C'est une industrie touristique aussi qu'on maintient en faisant revivre le phénomène une fois de temps en temps.
Voilà. On sait que la plus célèbre photographie du monstre du Loch Ness, il n'y a pas un documentaire, il n'y a pas un article qui paraît dans la presse pour parler du monstre du Loch Ness sans exploiter cette fameuse photo où on voit une espèce de cou qui sort de l'eau. Photo prise en 1934, qui elle est une fraude. C'est un jouet sous-marin sur lequel on avait monté de manière artisanale un cou. On avait placé ça dans une baie, on a pris une photo. Donc, j'explique tous les détails de cette arnaque. Mais c'est vrai que dans le cas du monstre du Loch Ness, la science était quand même un peu prononcée. Il y a quelques années, on a fait une recherche sur l'étude environnementale de l'eau. Il n'y a aucune espèce inconnue dans le Loch Ness et a fortiori encore moins un monstre survivant de la préhistoire. Mais ici, on parle quand même d'une industrie qui rapporte 50 millions de dollars chaque été à l'industrie locale. Et je ne sais pas, Paul, si tu as déjà été à Drumnadrochit.
Non.
Mais drôme d'Androkit. Il y a à peu près 1000 personnes qui vivent là. Ils ont à peu près 12 motels, 15 restaurants, 2 musées du monstre. Donc, on comprend que le monstre du Loch Ness, il est très important pour l'industrie locale. Donc, évidemment, même si la science dit il n'y a pas de monstre dans le Loch Ness, c'est sûr que pour des raisons économiques, on doit ramener l'histoire du monstre.
Jusqu'à quel point ça affecte les phénomènes inexplicables qui ont une base scientifique? D'autrement dit, là, comme tu disais, ce ne sont pas tous les phénomènes là, qu'il faut rejeter du revers de la main, mais quand ces trucs-là prennent beaucoup de place médiatiquement, c'est quoi l'impact sur les autres qui sont plus crédibles?
Ben, malheureusement, c'est que les médias et le public en général, on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. On se dit, les histoires d'OVNI, c'est toujours ça. Les histoires de fantômes, c'est toujours ça. Et malheureusement, les gens qui sont derrière ces fraudes-là n'ont absolument aucun intérêt sur l'aspect pédagogique ou scientifique de la chose. Pour eux, c'est simplement ou se valoriser, se trouver une plus-value, peu importe les motivations. Et à travers ça, évidemment, ça discrédite l'ensemble du sujet. Aujourd'hui, Paul, il y a eu une bascule. Hein, quand j'étais adolescent, je croyais que 90-95% de ce qui était rapporté dans la littérature était vrai. Aujourd'hui, 45 ans plus tard, je sais qu'il y a à peu près seulement de 5-10% qui a un fondement. C'est pas forcément vrai, mais qui a quand même un fondement. Et malheureusement, ce 5-10%-là, il est noyé dans un océan de fraude, d'arnaque. Et malheureusement, et je le mentionne bien dans mon ouvrage, les médias ont malheureusement emboîté le pas à ça. Hein. On a des réseaux maintenant de télévision qui se soucient peu de la qualité de l'information et qui nous présentent semaine après semaine des chasseurs de fantômes, des chasseurs d'ovnis, des chasseurs d'extraterrestres, à peu près du grand n'importe quoi, qui est dénoncé par... Je veux pas parler de société savante ou faire de l'élitisme, mais il y a quand même des archéologues, des historiens qui ont dit, mais voyons, il y a absolument rien là-dedans, c'est de la fraude du début à la fin. Et pourtant, des réseaux sans aucun souci éthique présentent ça, ils multiplient ces informations-là. Ce qui est malheureux, et dans le livre, je le mentionne bien, on a deux éléments, deux fraudes qui sont plus dangereuses que d'autres. Bon, dire, y a-t-il des extraterrestres qui nous rendent visite? Bon, ils croient ou ils croient pas. Mais il y a deux fraudes en particulier qui sont très omniprésentes dans l'univers du paranormal. Une qu'on appelle les Wunderwaffen. Ce sont des armes qui auraient été développées par l'Allemagne nazie, soucoupes volantes, machines à voyager dans le temps et tout le reste. Puis là, les nazis vivraient sous terre en Antarctique en attendant l'arrivée d'un quatrième Reich. Cette fraude-là en particulier, elle est dangereuse parce qu'elle nous présente des nazis non pas vaincus, mais des vainqueurs. Hein. Les nazis sont comme passés à autre chose. Hitler est toujours vivant. Il a décidé de passer à un autre niveau. On est en contact avec des extraterrestres. On a construit des armes fabuleuses. Et quand on gratte le lustre de ces histoires-là, on découvre très rapidement qu'elles sont entretenues à la racine par des groupes néo-nazis qui veulent essayer de redorer le blason d'une Allemagne nazie déchue. Ça, c'est assez dangereux. Et l'autre, c'est les histoires de momies, par exemple, et toutes les autres fraudes que l'on fait sur le dos de l'histoire et de l'archéologie, parce que ces fraudes-là, elles sont malheureusement excessivement racistes. Hein, c'est de se dire, des basanés d'Afrique du Nord n'ont pas pu construire des pyramides, des sauvages d'Amérique centrale n'ont pas pu construire non plus des temples et des cités fabuleuses. Ils ont dû avoir l'aide des extraterrestres ou d'une civilisation survivante qui ressemble aux Atlantes, hein. Mais les Atlantes, Paul, c'est toi, c'est moi. C'est une civilisation occidentale proche des Romains et des Grecs. Hein, c'est ça, les Atlantes. Donc, c'est de dire toutes ces sociétés-là étaient trop archaïques, trop primitives pour construire quoi que ce soit. Et on spoil finalement la richesse de ces grandes civilisations, que ce soit les Mayas, les Incas, que ce soit les Égyptiens antiques. On spoil leur réalisation pour les donner au profit d'archéologues, au profit d'extraterrestres et d'Atlantes. Et ça, c'est malheureux.
Dans le bouquin, tu parles beaucoup d'événements, Roswell, dans les années 50, 60, ouais. 70. Et je lisais ça en fin de semaine, puis je me disais, OK, nous sommes à l'époque de l'intelligence artificielle. Là, on parle de technologie assez rudimentaire, puis on a réussi à inventer des histoires puis créer des arnaques avec vraiment la technologie de base. Qu'est-ce qui nous attend? Je veux dire, on va être capable de créer n'importe quoi et faire dire n'importe quoi des images?
Ouais, c'est devenu excessivement difficile. Quand les gens me posent la question, oui, mais comment est-ce qu'on peut faire un tri? Comment séparer le bon grain de l'ivraie? Ce que je dis, c'est qu'il faut toujours se rappeler que lorsque l'on voit des images, les médias sociaux sont un véritable terreau fertile à la publication d'images, si on n'a pas accès à la caméra. On n'a pas accès aux témoins, on n'a pas accès aux lieux. On ne peut pas voir quelles sont les images qui ont été tournées avant ou après, ou quelles photos ont été prises avant et après. Il faut regarder ça comme étant essentiellement du divertissement. Mais tu as tout à fait raison. L'avènement des technologies rend de plus en plus difficile le moyen de séparer le bon grain de l'ivraie. Mais qu'est-ce qui nous attend dans les années à venir? J'imagine qu'en même temps que les fraudeurs, et je le dis bien dans le bouquin, au fur et à mesure où les fraudeurs trouvent de nouvelles méthodes pour tromper les gens, ben de l'autre côté, il y a une espèce de société savante qui met en place des mécanismes pour mieux documenter ces sujets-là. Mais c'est vrai que la ligne entre les deux devient excessivement ténue.
Jusqu'à quel point la télé, le cinéma façonne notre perception, par exemple, à quoi ça doit ressembler un extraterrestre? Tel phénomène mystique, là, le film L'Exorciste qui revient en salle 50 ans plus tard. Jusqu'à quel point ces événements, donc cinéma, télé, nous conditionnent?
Tu mets ton doigt, Paul, dans l'engrenage, en fait, parce que depuis l'avènement des sciences cognitives, là, il y a 20 ou 30 ans, les scientifiques croient que de plus en plus que ces phénomènes, fantômes, perceptions extrasensorielles, tout là, ce sont des phénomènes qui sont en grande partie des phénomènes culturels, auquel notre cerveau va donner vie. Hein. Tu es dans un lieu, une vieille maison, ça se met à craquer, tout ça, tu te mets à penser qu'il doit y avoir des fantômes et le craquement devient un bruit de pas dans l'escalier. Donc, on sait maintenant que le témoignage humain, il est excessivement fragile. Et les sciences cognitives montrent bien qu'il y a une forte propension à interpréter des phénomènes qui, dans bien des cas, pourraient être des phénomènes simples et naturels, les interpréter en fonction d'une culture populaire. Mais ça, malheureusement, les amateurs de mystère ne veulent pas en entendre parler. Pour eux, notre cerveau est une extraordinaire machine qui rend 100% le reflet de la réalité, alors qu'on sait que c'est tout à fait l'inverse. Après une année seulement, dans le milieu judiciaire et policier, on sait qu'un témoignage, après une année, a perdu facilement 50% de sa valeur. Mais dans l'univers du paranormal, non, les gens ne meurent pas, les gens ne vieillissent pas, les gens sont pas attirés par l'argent et les gens ont une mémoire absolue. Et ça, c'est malheureusement ce qui donne la force ou l'eau au moulin de ceux qui veulent nous faire croire n'importe quoi.
Christian, merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est toujours super intéressant. Christian Page, Les grandes fraudes du paranormal, des impostures, des arnaques, des canulars. C'est publié chez Saint-Jean Éditeur.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Notre invité ce matin est devenu une espèce de star sur le web. Avec ses recettes, il publie un livre de recettes, d'ailleurs, dont le titre est « Au top du top », ce sont ses meilleures recettes. Michel Dumas est avec nous, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand, et merci de m'avoir invité, c'est vraiment sympathique.
C'est bien, vous êtes vous-même assez sympathique.
Merci beaucoup.
J'ai appris à vous découvrir, parce que c'est comme, pas un retour aux sources, mais c'est l'intérêt de faire de la bouffe pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour bien manger correctement, mais avoir un certain plaisir. C'est un peu ça qui a l'air de vous motiver.
Et aussi en privilégiant les produits locaux. Car la bonne nourriture, donc qu'on appelle des fois la gastronomie, commence par les produits locaux.
Et vous êtes très motivé par ça, d'aller mettre en valeur les produits d'ici, par
exemple. Le Québec est très riche en produits, de très haute qualité, comme les légumes, les fromages. Les viandes sont exceptionnelles au Québec.
Parlez-moi de vous un peu. Vous êtes né en France?
Oui, à Poitiers, oui.
Et qu'est-ce que vous avez fait comme parcours en France?
Ben, en France, j'étais à la Côtelière. Après la Côtelière, l'armée. Après l'armée, j'ai fait ma demande d'immigration. Et après, le Québec.
Et la cuisine, c'est arrivé comment?
C'est-à-dire que mon père m'avait demandé de chercher un métier, et puis je ne trouvais pas. Alors, vu qu'il était un directeur de centre hospitalier universitaire, il était muté comme tous les trois ans. Et puis avoir échoué mes examens à l'école, il m'a dit de trouver un métier. Il m'a dit, ben, comme par hasard, je suis muté à Tarbes, il y a une école hôtelière. Alors je lui ai dit, pourquoi pas ? Il m'a inscrit, et puis là, c'est parti.
Et vous avez après cuisiné ?
Là, c'était comme un miracle. J'ai trouvé ma voie, je veux dire, ça a cliqué.
Et pourquoi ça a cliqué, selon vous ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez...
En fait, j'étais à l'origine peut-être plus manuel qu'intellectuel. Donc, c'est les mains qui travaillaient, puis j'étais... Que mes mains, on va dire, je ne savais pas que le manuel était pour moi, non pas l'intellectuel.
Et donc, on le disait, vous êtes arrivé à Montréal, vous avez travaillé dans des restaurants, vous avez travaillé dans des hôtels, vous avez roulé votre bosse comme cuisinier.
C'est-à-dire qu'à l'époque, en 76, il n'y avait pas de cuisinier au Québec. L'ITHQ n'était pas encore ouverte. Mm-hmm. Il y avait une école hôtelière, mais l'ITHQ n'avait pas encore formé des cuisiniers de profession. Alors, en 76, on frappe à une porte pour être engagé de suite. À 22 ans, je frappe à la porte du Windsor, et puis ils m'ont engagé comme chef de cuisine. C'était impossible en France. À 22 ans, on va dire, c'est impossible. Avec 32 cuisiniers à ses ordres, on va dire, c'est impensable.
Il y a déjà un chef français qui m'avait dit un jour que la hiérarchie en France est telle que vous ne pouvez pas aspirer à être un chef avec les pleins pouvoirs avant 15 ans, 20 ans d'expérience.
D'autant plus que quand on est finissant d'une école hôtelière, les chefs nous prennent pour des imbéciles sans expérience. Ben c'est normal, après l'école, on n'a pas d'expérience.
Est-ce que vous avez connu des chefs qui crient dans les cuisines, des chefs qui intimident? Est-ce que vous avez connu ça un peu?
J'ai entendu parler en France, mais pas au Québec.
Pas au Québec, mais en France.
J'ai des grands amis, d'ailleurs, chefs aussi, Jean Soulard et puis Jean-Paul Grappe. Eh bien, ces gens sont respectés et respectables, les vrais chefs. Comme d'ailleurs, comme à mon image.
OK. Parlons de cette aventure sur le web. Ça a commencé doucement. Je regardais les chiffres. Vous avez 2 millions d'abonnés sur Facebook, 1 million d'abonnés sur YouTube, 420 000 sur TikTok. Vos recettes sont partagées par bien du monde sur le web. Moi, je vous ai découvert progressivement avec le carrelage, le blanc, le bleu, puis l'espèce de cuisine de proximité. Comment vous avez développé cette idée-là de cuisiner comme ça sur le web?
Ben, c'est-à-dire que j'utilise des produits locaux du Québec, mais que tout le monde a dans le monde, comme des carottes, des pommes de terre, oignons et pommes de terre, enfin, tout le monde a dans le monde, mais moi j'utilise dans mes vidéos des produits du Québec. Non pas des produits exclusifs comme le caribou ou l'orignal, ou comme des gibiers plus ou moins exclusifs au Québec, car ça n'ira pas plus loin que Rimouski. Il n'y a pas de caribou ni d'orignal au Portugal, en Nouvelle-Zélande, en Argentine, rien. Donc ça, il faut le garder au Québec.
Et votre approche, c'est quoi? C'est des plats simples? C'est des plats pas trop compliqués, économiques?
Très simple, que j'ai fait durant mes 48 ans de restauration. Et puis, c'est des souvenirs de ma carrière, quoi.
Vous en avez beaucoup de souvenirs de carrière?
Ben, en 48 ans, oui.
Vous pouvez nous en raconter quelques-uns, quand même? Partager avec nous quelques-uns de vos souvenirs de carrière?
Ben, comme mon couscous. Ben, on parlait aussi d'Orignal. Ben, j'ai fait aussi de l'Orignal dans le Grand Nord, avec des mineurs qui travaillaient à Lyon City. En fait, ma connaissance est quand même assez large.
Mais vous êtes encore là, capable de cuisiner, je vais dire, pour un groupe de travailleurs comme pour des gens qui s'attendent à quelque chose de plus gastronomique. Vous êtes capable de toucher à tout.
En fait, la gastronomie n'a vraiment pas impressionné de ma vie. Parce qu'un steak au poivre avec 2-3 coups de sauce autour du sec, c'est pas mon truc.
Mais quand je dis gastronomie, je veux pas dire nécessairement la cuisine moléculaire puis des trucs très fancy, là, mais des plats traditionnels aussi que vous faites. Puis êtes-vous préoccupé de ces tendances-là? Il faut pas manger trop de viande, il faut pas manger de viande, il faut pas manger de gras. Comment vous réagissez face à ça?
J'ai réagi qu'il faut faire du sport.
OK.
Moi, par exemple, je fais à peu près 100 km par semaine de vélo. Et puis, à 110 ans, regardez, je suis en forme.
Et donc, la nourriture?
On fait n'importe quoi. On peut manger n'importe quoi en tant qu'on fait du sport, d'être actif. C'est ça, le secret.
Et qu'est-ce que ça vous fait d'être une vedette comme ça sur les réseaux sociaux?
Je me fais ni chaud ni froid, c'est comme ça. C'est arrivé malgré moi, mais il fallait accepter, quoi.
Et comment c'est arrivé? Comment vous avez fait cette démarche vers YouTube, vers Facebook?
J'ai rien fait pour. C'est venu comme ça. Les gens sont venus à moi. Je ne suis pas du genre à aller aux gens. C'est les gens qui sont venus à moi.
Qui vous ont proposé de faire ça?
Ben, ça a commencé quand je travaillais chez Ubisoft.
Ouais.
Et puis, si je peux dire, ben, c'est que c'est les gens qui m'ont fait la popularité du bouche à oreille. Mais je me suis jamais mis à genoux devant la caméra pour avoir les abonnés. Ils sont mis tout seuls. Alors qu'il y en a qui le font, ils n'ont pas plus d'abonnés.
Vous, vous êtes naturel, puis ça marche.
C'est ça. Il faut être comme on est, sans se penser pour d'autres, pour un autre, sans se penser supérieur. On est comme on est, et voilà. Être simple et disponible veut dire aussi pour les commentaires, pour répondre.
Est-ce que c'est vrai que vous lisez tous les commentaires?
Tous. Ben, mon laptop est ouvert 18 heures par jour. De 8h du matin à 11h du soir. Bon, je ne suis pas toujours dessus, mais toujours disponible. Et tous mes commentaires, je leur réponds, ou alors, du moins, je mets un cœur pour leur montrer que je l'ai lu. Car souvent, les gens ne prennent pas connaissance à mes réponses, donc alors, c'est une perte de temps. Alors, je mets un cœur pour dire que je l'ai vu, que je l'ai lu. Et puis ça fait aussi partie de la popularité, car je fais attention à tout ce que les gens disent.
Je dois vous dire que ce que j'ai apprécié chez vous, c'est votre environnement, c'est votre cuisine, puis la façon dont vous travaillez avec les produits du Québec, vous le disiez là,
mais de
prendre des espèces de casseroles en fonte, puis d'avoir un poêlon, puis de pas hésiter, on met du beurre, puis d'être capable comme ça dans un univers qui est pas énorme, là, c'est pas des cuisines, une cuisine
non pas du tout, non.
C'est assez rudimentaire, puis voilà. C'est assez convivial votre environnement de travail.
Ben j'habite sur Petit-Mont-Royal et puis ça c'est une maison de 1927. Donc, la cuisine était comme ça dans le temps, et j'ai gardé comme ça. Par contre, je l'ai aménagé pour qu'elle soit un petit peu genre provençale. Donc, le fond comme jaune, mes couteaux sur les éléments. C'est pour être à l'aise dans une cuisine. Je suis aussi à l'aise chez moi que dans un restaurant. Parce que plus l'espace est grand, plus il y a du nettoyage à faire. En cuisine, pour être efficace, il faut avoir tout à 30 à 40 cm de ses mains. Et 20 cm de ses yeux. Quand il faut avoir l'œil partout.
Votre meilleure recette, c'est quoi? Votre recette, vous dites ça, c'est pas mal la meilleure.
Ben, celle qui marche le mieux, c'est mon bœuf bourguignon, bien sûr. Mais moi, je préfère le couscous.
Le couscous?
D'ailleurs, c'est mon plat traditionnel pour mon anniversaire. À chaque anniversaire qui est le 6 mai, c'est à la maison que c'est couscous.
C'est automatique, c'est tout le temps ça?
C'est obligatoire, ouais.
Et pourquoi c'est devenu le couscous? Pourquoi vous avez...
Que c'est pas bourratif, c'est santé. Il y a beaucoup de légumes, veux dire. C'est un plat qui est vraiment idéal.
Et le bœuf bourguignon, c'est le plus populaire, vous pensez? Votre plus.
Sur ma chaîne, oui. Ben, je pense que j'ai 4 millions de vues. C'est quand même pas mal important, oui.
Puis c'est une recette traditionnelle? Vous l'avez ajustée à votre façon? Comment vous avez.
Ben, je l'ai ajusté à cause que je n'ai pas fait mariner ma viande, parce que la viande du Québec est tellement bonne que c'est pas la peine de la faire mariner. Mais en France, vu que la viande n'est pas très de haute qualité, ben là, il la marine pour que ce soit plus tendre.
Et qu'est-ce qu'on va trouver dans votre livre comme recette, là? Vous avez fait le tour, là. Il y a la queue de castor, il y a un paquet d'affaires, là.
Mais vous avez de la pâtisserie, vous avez du sucré, du salé, vous avez mon couscous, vous avez le bourguignon, vous avez le poulet à. Au caramel, vous avez la. Il y a beaucoup de choses. Il y a 47 ou 45 recettes. Sucré salé, il y en a pour tous les goûts. Et tout est indiqué en grammes, car maintenant au Québec on est en grammes. Et en Celsius ou en Fahrenheit, ça dépend. Ouais. Par contre, les deux livres différents, que ce soit en Europe ou au Québec, la seule chose qui diffère, c'est la couverture. En Europe, c'est en noir et blanc, puis au Québec, c'est en couleur.
Pourquoi il y a une différence entre les deux? Comme ça?
Comme ça, oui.
OK. Et le vin rouge dans votre vie? C'est important, pas important?
Je ne bois jamais.
Jamais?
Jamais. Je ne bois jamais de vin.
Un Français qui ne boit jamais de vin?
Jamais. J'aime pas ça.
Qu'est-ce que vous buvez?
La bière.
Ah!
Bière 5%, Slimane, c'est la meilleure. On n'a pas d'effet secondaire. Est-ce que le vin veut dire c'est ça rend fou? Et puis en plus, en buvant du vin en mangeant, ça détruit la nourriture. Et en buvant en mangeant, c'est aussi mauvais pour la digestion, car le liquide dissout les sucs gastriques pour la digestion, donc c'est tout faux.
Vous êtes le premier Français que je rencontre qui ne boit pas de vin.
Ah oui?
Oui. Je n'en connais pas beaucoup. C'est la première fois, même.
Il y a eu mon père et mes frères et mes soeurs.
Aussi?
Oui, bien sûr. Hein. On n'a jamais pris de vin chez nous.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Par contre, je prends du vin pour la cuisine.
Ah, ben ça, oui.
Mais quand c'est cuit, il n'y a plus d'alcool. Puis qu'on prenne un vin du Québec ou un vin de Chili ou un vin de France qui est hyper cher, c'est pareil. En cuisson, c'est le résultat est le même.
Peu importe le prix payé, ça ne change pas le produit final.
C'est pareil.
Michel Dumas, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci aussi à vous. Et puis on se revoit un C4.
Bien sûr.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Maintenant, parlons de la merveilleuse Société d'assurance automobile du Québec. Pourquoi? Parce que nous avons des enjeux. Encore une fois, malgré le discours officiel, là, il y a des ratés. Et ce matin, je vous présente Émilie Renaud-Roy. C'est une enseignante et depuis le printemps, elle tente de renouveler son permis de conduire. Émilie, bonjour.
Bonjour.
Votre permis, là, depuis le mois d'avril, qu'il doit être renouvelé.
Oui, c'est un renouvellement avec photo, ce qui n'est pas à tous les ans. Là. Et c'est à cause de ça que j'ai des difficultés depuis ce temps-là.
OK. Racontez-nous un peu le parcours quand vous avez essayé de renouveler votre permis au printemps.
Ben, au printemps, c'était le moment où déjà la SAC avait des problèmes avec son système informatique et il y avait des files d'attente pas possibles. Et donc, il avait laissé aux gens qui étaient comme dans ma période de renouvellement un sursis, si on peut dire, de 90 jours pour avoir le temps de prendre rendez-vous puis de faire le changement avec eux parce que je devais me rendre sur place pour prendre la photo. Et donc, 90 jours plus tard... Donc, on est au mois de juillet, je prends rendez-vous, je me rends à la SAC pour prendre ma photo, payer mon renouvellement. Et là, il y a un nouveau problème informatique, ça devient plus possible de faire le renouvellement pour les gens qui sont en retard sur le renouvellement, ce qui est mon cas dû aux 90 jours. Et donc, ils peuvent pas me faire payer le permis. Ils me proposent de prendre la photo tout d'un coup que ça pourrait fonctionner en me disant que je pourrais recevoir mon permis par la poste et que possiblement je recevrais l'avis de paiement. Mais si je le reçois pas, je dois me rendre à nouveau dans les bureaux avec un laissez-passer qui me permet de ne pas faire la file. Donc ça, ce laissez-passer-là est bon jusqu'au 20 septembre. Et le 20 septembre suivant, j'ai reçu le permis, mais j'ai pas reçu l'avis de paiement. Donc, je me rends sur place au même bureau de la SAC avec mon laissez-passer. Et le problème informatique n'est toujours pas réglé. Donc, j'ai un permis, mais qui est pas valide parce qu'il n'est pas payé. Et donc,
On parle toujours d'un paiement de 24 $, là.
Oui, c'est pour 24 $. Plus, je crois, 3 $ pour les frais oui. Si on va sur place, là, mais c'est vraiment, c'est rien, là.
Et là, on est rendu au 20 octobre. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, il se passe que le 20 septembre, c'est ça, c'était pas possible de le faire. On me dit d'aller à une SAC plus large, sur l'Angelier, où il y a plus de services. Peut-être qu'ils seront en mesure de régler le problème. Donc, ils me donnent rendez-vous. Au 20 octobre, je me rends là-bas, j'ai un rendez-vous. Cette fois, je ne passe pas l'heure du rendez-vous, je passe 2h30 plus tard pour me faire dire qu'ils peuvent toujours pas me faire payer mon avis-paiement, ben mon renouvellement. Et là, donc, encore une fois, ils s'adressent, alors la dame s'adresse à son responsable, il n'y a rien à faire, le support technique ne répond pas, et elle me dit qu'elle va faire la demande pour que je reçoive l'avis-paiement par la poste, donc je doute que ça va arriver, là, ça fait déjà 6 mois. Puis, elle me dit que j'aurais besoin d'une autre lettre, d'une autre extension pour revenir à nouveau en espérant que le problème sera réglé. Donc là, cette extension-là, parce que évidemment, ça fait déjà plusieurs fois que je me présente, là, cette extension-là est bonne jusqu'à la fin janvier.
Ben, finalement, donc, vous allez faire le tour du calendrier pour obtenir un permis de conduire, en fait, pour payer un permis de conduire.
Ben, je suis en train de me dire qu'avec la chance, au mois d'avril prochain, quand j'aurai juste le paiement de mon permis de conduire, peut-être magiquement tout ça va se régler. Là. C'est un peu mon espoir. Parce que en ce moment, je vois pas. J'ai vraiment du mal à imaginer que magiquement ce problème-là va être réglé. J'ai l'impression d'être vraiment tombée dans les cracks d'un système. Là.
Mais le système là fait que vous avez quand même reçu votre avis de paiement pour l'immatriculation de votre véhicule.
Oui, sur le site, la plateforme en ligne de la SAC, j'ai reçu l'avis de paiement pour la plaque pour l'immatriculation de mon véhicule que j'ai déjà payé. Puis aussi ce que je trouve un peu fou dans tout ça. C'est que là, on parle d'un paiement de 24 $, là, c'est vraiment ridicule. Mais si je ne reste pas là, je n'ai pas l'extension pour faire reconnaître que mon permis de conduire est en règle. Puis si je me faisais arrêter avec ce permis-là impayé, là, ben j'aurais une amende salée, je pourrais me faire retirer mon permis de conduire. Donc c'est pour ça que je persévère dans la démarche.
Ben vous faites bien, puis merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous ce matin.
Ça me fait plaisir.
Bonne journée. Émilie Renaud-Roy. C'est une enseignante qui a d'autres choses à faire dans la vie que de prendre des rendez-vous avec la Société d'assurance automobile du Québec pour payer 24 $. T'es même pas capable de le dire. Mais on va vous le donner, le 24 $. Non, non, on prend pas ça, nous autres. C'est incroyable. Puis l'épais à Éric Kerr est toujours ministre. Je sais pas s'il a des dossiers confidentiels sur des membres du gouvernement qui lui permettent de sauver sa job. Puis il va dire que c'est pas lui. Puis il y a personne qui parle de ça. On a un PDG muet, puis des agneaux sacrifiés qui sont envoyés de temps en temps sans avoir les réponses aux questions légitimes. Puis des cas comme Émilie Renaud-Roy, là, j'en ai tous les jours. Tantôt, j'en ai reçu une madame, même affaire. Une autre, ah, attendez, il faut que je raconte celle-là. Celle-là est très bonne. C'est quelqu'un qui veut remiser son véhicule, OK? Et là, remiser son véhicule, lui, c'est toujours à peu près à la même période chaque année. Fait que là, ce qui fait que le système, il rentre des dates. Et quand tu rentres des dates, ben ça te donne des prix qui varient selon la date que tu as entrée. Alors, par exemple, il a découvert que s'il mettait le 30 octobre, c'était tel montant, que s'il mettait telle autre date, c'est tel autre montant. Ça n'a aucun sens. Et ça varie de 0 $ de remboursement à 160 $ pour le même véhicule. C'est ça, la Société d'assurance automobile du Québec. Ça dit qu'il y en a qui sont chanceux de pouvoir sauver leur job de cette façon-là dans n'importe quelle entreprise privée. Ils seraient tous dehors après un rapport dévastateur de Pricewaterhouse. Non, ils sont assis sur leur cul confortablement au chaud et ça continue. Et puis, ils essaient de nous faire croire que tout va bien, que tout est sous contrôle, qu'il n'y en a pas de problème.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
6 premiers ministres ont signé une lettre. Lucien Bouchard, Pauline Marois, Jean Charest, Philippe Couillard, Daniel Johnson et Pierre-Marc Johnson en disant qu'ils étaient plus que préoccupés par les modifications faites et qu'on mettait en péril le caractère unique de plusieurs institutions. Lucien Bouchard est avec nous ce matin. Monsieur Bouchard, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes d'abord rassuré sur les amendements qui ont été présentés hier par monsieur Dubé?
Malheureusement pas.
Pourquoi?
Parce que au fond, c'est beaucoup de cosmétiques par rapport à ce qui est au projet initial. En réalité, c'est malheureux de le constater, mais ces institutions-là ne seront plus, si la réforme est faite comme cela, ne seront plus ce qu'elles étaient. Ce ne seront plus des entités qui ont une histoire, une culture, une tradition, une continuité, et qui sont capables de gérer dans l'ensemble ce qu'ils font. Parce que c'est sûr que du côté clinique, il y a des réformes à faire, on en est conscient. Mais il n'y a pas seulement que le clinique, il ne faut pas oublier que ce qui fonctionne très bien dans notre système, c'est la recherche, l'enseignement, l'innovation, et c'est là qu'on trouve ça, dans ces institutions-là, qui sont créées de génération en génération par des efforts, du talent, des adhésions de cœur. Et là, maintenant, on fait disparaître leur entité corporative. Des par exemple, il y en a qui ont été fondés en 1900, ils disparaissent, l'entité, le titre corporatif. Mais ça, on nous dit, oui, mais la brique va être encore là, les noms vont être là, Sainte-Justine, ça va rester Sainte-Justine. Oui, il y a la brique, il y a les noms, mais il y a le monde. Ça a une âme, une culture. L'institution, ça a une âme. Et là, on pense, en tout cas, moi, c'est mon impression, puis il y a plusieurs qui le partagent aussi, ils la partagent, on va désarmer ces institutions-là. On va démotiver des gens qui sont du côté de l'excellence et qui sont capables, avec une corporation qui a des pouvoirs décisionnels, un vrai conseil d'administration, d'arrimer ensemble, de faire une belle synergie de mise en commun, les soins cliniques, la recherche, l'enseignement, l'innovation. Tout ça, ça se nourrit d'un secteur à l'autre. Il y a une sorte de fertilisation réciproque. Là. Les soins cliniques qu'on rend, par exemple, dans un hôpital
universitaire... Mais M. Dubé me dit que tout ça va continuer d'exister, me dit que si, par exemple, je veux donner à l'Institut de cardiologie, c'est mon choix, mon don va être administré par l'Institut.
Si on parle des dons, c'est ça, je viens de parler dans l'ensemble. Voilà. Pour ce qui est des dons, une des choses qui explique le succès de ces institutions-là, c'est qu'ils ont établi un lien très étroit, très fécond, très fort avec la communauté. Puis la communauté, c'est les bénévoles qui travaillent, ce sont les donateurs. Puis ces gens-là, il faut qu'ils se retrouvent dans l'institution. Ils en font partie, ils l'ont créé ensemble. Et du jour au lendemain, il n'y a pas de vrai conseil d'administration. Les pouvoirs qui sont là sont délégués. D'autres sont seulement consultatifs. Et puis, ça vient d'en haut, unique. Ils deviennent une case, une simple case dans une immense structure qui va employer peut-être au-delà de 300 000 $, ça va être le plus gros employeur au Canada. Est-ce qu'on pense qu'il va y avoir de l'efficacité là-dedans, ce qui concerne ces institutions-là qui fonctionnent de façon rapide, vigilante, alerte? C'est ça qui est le vrai problème. En plus, j'ai entendu M. Dubé prendre ses distances, c'est le mot le plus gentil qu'on puisse dire, par rapport au président de conseil d'administration.
Il dit dans le fond que vous protégez des amis, des gens qui sont là, puis que c'est oui, on les réfractaires au changement.
Mais on les connaît tous, ces gens-là. La démonstration des bénévoles. Pas ça pour servir, parce qu'ils ont foi dans ces institutions-là. Et ils s'identifient aux institutions. Alors, je pense que c'est pas correct. C'est pas des adversaires du gouvernement. C'est pas des gens qui font la politique. C'est pas des gens qui ont des intérêts personnels à protéger. C'est pas des intérêts corporatifs. C'est des gens qui ont une adhésion, une allégeance par rapport à une institution dont ils ont épousé étroitement les buts, les capacités, le talent. C'est de valeur qu'on en parle comme ça, parce que c'est vraiment pas... C'est pas là qu'est le problème. Le problème, mais il n'est pas dans le président du conseil d'administration. Ouais. Hein? Il est dans la grosse machine, le mammouth. Là. Puis le mammouth, là, il va se perpétuer actuellement. En fait, le mammouth a toujours rêvé de prendre le contrôle de ces institutions-là. Chaque fois qu'il y a eu des réformes, il y en a eu beaucoup de réformes au Québec. Il y a eu des regroupements importants aussi. Encore les récentes réformes du gouvernement précédent, mais on n'a jamais touché à l'identité corporative, au caractère distinctif de ces institutions-là. Mais personne n'a jamais touché à
mais
ça.
Mais comment vous expliquez cette volonté du gouvernement actuel, j'allais dire, de dépouiller ces institutions de leur statut actuel? C'est la politique ou c'est le mammouth?
Moi, je ne vais pas imputer de motifs négatifs au gouvernement, puis à M. Dubé, comme lui le fait pour les présidents de conseil d'administration. Moi, je respecte M. Dubé. Je crois qu'il faut l'aider à réussir sa réforme. On veut qu'il la réussisse, sa réforme. Et moi, je suis prêt à poser des actes d'humilité. On a essayé, nous autres aussi. Tous les gouvernements ont essayé. Bon, j'ai toujours buté à des obstacles extrêmement difficiles.
Il y en a qui vous ont blâmé pour les mises à la retraite prématurées.
Oui, bien sûr. Puis on a fait des bons coups, des moins bons coups. Mais finalement, on arrive aujourd'hui à une situation qui est devenue intolérable. Tout le monde est excédé. Alors là, le danger, c'est de dire, ça va tellement mal, ben là, on va essayer n'importe quoi. Ben là, on essaye une grosse affaire, là. Puis si on efface de la carte cette espèce de motivation, cette espèce de culture, de gens de talent qui vont au bout de leur capacité. Ben, à l'Institut, on nous reproche de trop parler de l'Institut, mais l'Institut, c'est un des meilleurs au monde. Qu'est-ce que ça va changer de leur enlever leur identité, d'avoir un conseil d'administration qui va uniquement travailler dans le cadre de pouvoir déléguer par le tsar parce que le prochain mammouth, ça va être ça, là. C'est un contrôle total. C'est correct si ça marche, puis on fait confiance. Mais il faut faire attention que on n'assiste pas à un autre rendez-vous entre la bureaucratie et la centralisation, là. C'est ça qui est le danger. Alors nous, ceux qui sommes intervenus, on veut aider le gouvernement. On veut engager une réflexion positive. Moi, je le respecte, M. Dubé. C'est un des meilleurs ministres qu'on a jamais eu, puis on est très chanceux qu'il soit là. Il faut l'aider. Mais l'aider pour nous autres actuellement, c'est lui dire, attention, ce que vous faites là par rapport aux instituts universitaires là et de recherche là et de cardiologie, ça, c'est dangereux. Faites attention, parce qu'il faut préserver ce qui marche. Ce qui marche, il faut le préserver. Ce qui fonctionne bien, il faut le préserver. Bon, pour ce qui est des donateurs, puis les bénévoles, des fondations, oui... C'est évident. Si vous êtes un donateur, vous, et puis que vous savez qu'au-dessus de la corporation à qui vous allez vouloir financer de la recherche en particulier, il y a un grand parapluie, qui se comporte, qu'il y a des relations de délégation de pouvoir. Il y a même des pouvoirs où le président directeur général, le PDG local, est même pas lié par les décisions de son supposément conseil d'administration. C'est pas un vrai conseil d'administration.
Moi, je donne pas au système de santé du Québec, là. Je donne à un institut, à des chercheurs.
À qui vous donnez?
Puis je veux savoir que l'argent soit utilisé.
Puis que les gens qui sont là, ils ont un pouvoir de décision, là, qu'il n'y a pas possibilité de quelqu'un d'intervenir par la suite parce que ça va être une grande bureaucratie. Monsieur Dubé, il a des très bonnes intentions.
Mais ce que vous me dites, c'est que la philanthropie va être... Ben, les gens vont percevoir ça comme moins efficace, moins tenté de donner,
c'est
peut-être.
Si vous le savez, vous devez le deviner, les appels téléphoniques qui se font actuellement, moi je donnerais plus, ça n'a pas de bon sens. Moi, la grande histoire là, où on efface l'identité distincte de cette corporation-là que j'aime, avec laquelle je me suis engagé depuis longtemps, ça va me démotiver. Les gens sont pas fâchés, ils sont découragés, ils sont inquiets. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas identifié quelques institutions comme celle-là qui sont connues, qui font de la recherche, d'enseignement? Quand on, c'est pas rien la recherche là-bas. Ça, c'est des centres de recherche, ces hôpitaux-là. Faut pas oublier ça. C'est des centres d'enseignement tellement bons que il y a beaucoup de gens d'étrangers qui viennent se former ici, vous le savez, hein. Il y en a beaucoup.
Puis les patients québécois sont les premiers à bénéficier. Puis
les patients en bénéficient parce qu'il se fait un transfert automatique. Ce qu'on réussit de mieux dans la recherche, on l'applique tout de suite aux soins. Parce que on passe pas par 50 comités là, puis etc. On fait tout de suite. Ça, c'est le cas de tous ces hôpitaux là. Puis l'innovation, c'est eux autres l'innovation. Les nouvelles technologies, c'est là que ça se passe. Faut faire attention là. On dit que Montréal a un grand atout, ce sont ses centres de recherche. Oui, mais parmi ces centres de recherche, il y a les centres de recherche médicales. Et là, c'est pourquoi est-ce qu'on vient toucher à ça là? Est-ce que ça va être plus efficace? Allons-nous penser une seconde qu'une loi de plus de 1000 dispositions va faire en sorte que ces institutions-là vont être plus efficaces qu'elles ne le sont? Dans le fond, je comprends le gouvernement, c'est qu'ils sont frustrés de voir que la coordination du clinique, des soins, des urgences, première ligne, que ça se fait mal. C'est vrai que ça se fait mal, on le constate tous. Puis on est tous, on n'en peut plus, là. Il faut absolument que ça change. C'est pour ça qu'on l'appuie, M. Dubé. On veut qu'il réussisse. Mais par contre, ça ne peut pas se faire aux dépens des autres activités qui fonctionnent, comme la recherche, l'enseignement, l'innovation.
Quelle est la prochaine étape pour vous et vos collègues anciens premiers ministres?
Moi, je n'en ai pas en politique. Moi, je ne passe pas mon temps à me promener et à faire des entrevues. Je vais en faire deux aujourd'hui. J'en fais une avec vous, puis une heure plus tard, en fin de journée. On a écrit une lettre. Moi, j'ai parlé à M. Dubé. J'ai passé du temps avec lui. Du temps de qualité. C'est un homme qui discute bien, qui est bien disposé. Il est de bonne foi. Il fait ça pour l'intérêt public tel qu'il le perçoit. Mais moi, je me dis, ça me vient d'arriver à tous, dans l'enthousiasme de vouloir régler un problème, là, on fait du mur à mur. On fasse une grosse patente, là on va les régler, les problèmes, mais il y a des choses qu'on oublie. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, prenons les fusions municipales. Moi, j'avais un rêve, une ville, une île, puis tout le Québec fusionné, puis etc., puis on a mis le paquet. Vous le savez, on a tout fusionné, tout ce qui grouillait.
Ça devait nous coûter moins cher aussi.
Oui, puis c'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Puis on est allé trop vite, trop loin. On avait trop l'idée de faire une seule solution unique, simple. Puis en plus... Je me demande, moi aussi, des fois, si... Vous savez, ce ministère spécial, là, la santé, là, on le sait, ça n'a jamais été contrôlé par personne. Il y a eu des gros ministres qui ont été là, puis il n'y a jamais personne qui a vraiment réussi. Pas parce que les gens qui sont là présentement ne sont pas du bon monde, mais il y a une culture dans ces... Ça aussi, c'est une culture d'institution. Et depuis
très longtemps... La bureaucratie ne cède jamais un pouce.
Depuis très longtemps, il y a un rêve ou une frustration d'englober... sous le parapluie des interventions du ministère ou d'une autre agence générale, ces institutions-là qui sont toujours un peu en retrait, qui ont de l'autonomie, puis qui font de la recherche.
Qui fonctionnent,
mais ils échappent au contrôle. Ils ne sont pas dans le giron. Tu sais, c'est le petit poussin qui est là, la poule voudrait l'avoir aussi. Puis ils n'ont jamais réussi à faire ça. Là, ils ont un ministre intelligent, capable, dévoué. Il s'accroche après lui, puis il pense qu'il va leur livrer ça. Moi, je ferais attention vis-à-vis la bureaucratie gouvernementale. C'est du bon monde, je le sais, mais c'est une telle chose que ça existe. On met des milliers de personnes ensemble, ça devient bureaucratique. On le sait. Et là, on va en créer une. Ça va être gros, là. En tout cas, je sais que c'est un des défis que les gens auront de combattre le danger d'inefficacité qui risque fort de résulter de cette rencontre un peu dangereuse là, d'une bureaucratie immense avec une centralisation, parce qu'il n'y a plus de conseil d'administration. M. Dubé dit, oui, je vous ai donné une victoire parce que on va appeler ça maintenant conseil d'administration établissement. C'est pas des vrais conseils d'administration. Ça n'en est pas parce que, au point, par exemple, que le directeur général, là, de ce qui va rester, là, de l'établissement, c'est lui qui va indirectement choisir la composition d'une partie de son conseil d'administration. Or, un vrai conseil, c'est le patron du directeur général. Pas le cas. Lui, il va dresser une liste et dans cette liste-là qu'on va devoir choisir les représentants dans trois secteurs en particulier. La grande institution centrale, elle peut, par une simple résolution, faire disparaître un établissement. C'est un pouvoir qui lui est donné. Il lui suffit d'avoir l'accord du ministre. Pas besoin de décret, pas besoin de loi, pas besoin de rien. Une résolution du conseil d'administration centrale, le vrai, le seul grand conseil, puis il peut n'y avoir qu'un seul, bien, il peut, lui, décider de faire en sorte qu'il y ait moins d'établissements dans une région. Ça veut dire qu'il va en fermer, s'il veut. Alors, c'est très dangereux. Ça expose les gens à l'administration d'un pouvoir qui risque d'être excessif. Faut faire attention. C'est ça qu'on dit, nous. Faut faire attention. Faut pas prendre trop de risques quand on fait...
T'as encore le temps de corriger le tir.
Oui, mais ça, c'est... Oui, mais...
Vous avez l'air découragé.
Je dis, franchement, là, on n'est pas intervenu publiquement. On a dit, on va laisser le temps au gouvernement de réfléchir, on va en discuter convivialement, entre amis, des gens qui se respectent. Puis, le gouvernement n'est pas allé aussi loin qu'il aurait dû l'être pour tenir compte de ces réalités très spécifiques.
M. Bouchard, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci.
Lucien Bouchard, ancien premier ministre du Québec.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.